d'abeille. Les mains. Ça grippe à lui, au visage. Des visages grimaçants sont contre lui. On se plaque contre lui. On le griffe. On lui attache les pieds et les jambes. Essoufflé, apeuré, il demande « Mais que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? » Un homme lui dit « Déposez-le sur l'autel. » Il se sent soulevé, porté par le haut. Et les pieds, on le porte aussi. Il ne sait plus. C'est tellement horrible, tout ça. Il crie, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Il sent qu'il est déposé sur une pierre. À hauteur. Il a froid. Il est couché sur le dos. Une main rouge s'approche de lui. Et lui dit, pour te punir de ce que tu nous as fait, tu es celle qui était promise pour notre maître, mais on te découper en petits morceaux. Et en même temps, on te fera des excitations sexuelles. Beaulieu panique et dit, non, tu nous as rien fait, c'est pas moi, mais c'est moi, elle me dit. Allez, le silence se fait. Et une musique étrange, lancinante. Voix qui s'approche de lui, des hommes, avec des petits canifles, se penche sur lui et on lui fait des petites entailles. Le sang gicle, gicle un peu. Beaulieu sent la douleur. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Pendant qu'on lui fait ses entailles sur tout le corps, la poitrine, les jambes, les bras, Beaulieu sent qu'on lui excite le sexe, et malgré lui, malgré la douleur, et peut-être à cause d'elle, il sent une excitation, un plaisir mélangé à la douleur. On y va lentement, petit bout par petit bout. Ça dure pendant des heures. La douleur et la jouissance. Et puisqu'un corps d'homme est grand, et dessous la peau, il y a tout le reste, les bouts de peau qui sont arrachés sont mis dans des récipients pour les faire bouillir. Beaulieu a l'impression que des bêtes, des insectes sont sur son corps et le piquent. Il y a une grande douleur lorsque on lui enlève un bout de peau. Centimètre par centimètre. Les plaies sont de plus en plus nombreuses et rougit le corps. Beaulieu crie, hurle de douleur. 2 heures plus tard, il a une plaie de 50 cm sur 20 cm sur le corps. Les cuisses ont aussi des plaies et le travail continue. Beaulieu n'en peut plus de souffrir. Il aimerait que ça cesse. Il voit un couteau s'approcher de ses yeux. On lui tient les poignets et on lui arrache un œil. Du sortant de son orbite, il pendouille. La chose dure, dure, des heures et des heures. La dernière chose qu'on va lui enlever, c'est son sexe. Parce que ça le fera jouir jusqu'au dernier bout de sexe. Jusqu'au dernier bout de Beaulieu. Beaulieu est dans sa maison, en Pays de Loire. Il rêve qu'il est chez lui. Lui. Madame Beaulieu, dans sa maison en Pays de Loire, s'inquiète. Cela fait plusieurs jours qu'elle n'a pas de nouvelles de son mari. Florent, Franblanc, qui l'attendait, ne le voyant pas, lui a téléphoné pour savoir ce qui se passe. Madame Beaulieu lui dit qu'il est parti à Paris. En train. Franblanc se renseigne, pas de nouvelles. Le jour passe, rien. Madame Beaulieu prévient la police de la disparition de son mari. On lui dit : il y a tellement de disparitions, madame. Alors, elle attend, inquiète. Un jour, elle reçoit un paquet, l'ouvre et voit avec horreur un œil. Elle reconnaît l'œil de son mari. La découverte la rend folle. Elle crie dans toutes les pièces. Les domestiques font venir un médecin qui font une piqûre, et comme elle a reçu un choc terrible, il décide c'est de la faire soigner dans une maison. Les domestiques lui montrent ce qu'elle a reçu. Dégoûté, il dit, jetez ça en vitesse. Cette chose horrible. Ça doit être des yeux. Un cochon. Oui, ça doit être. Les yeux d'un cochon. Alors, on jette l'œil de Monsieur Beaulieu. Madame Beaulieu part en ambulance en Bourgogne dans une maison de santé. Pendant ce temps, Didier se bat toujours près de la ville où est enfermé Jeanne. Genevois est dans la chambre de Jeanne et lui dit « J'ai décidé, pour remonter le moral des troupes, de faire un gros coup. Je vais tuer celui qui symbolise le plus nos ennemis. » La femme est toute fière. Jeanne est toute fière. Elle lui dit, tu as raison d'aller te battre, mon chéri. Et puis tu te battras pour moi aussi. Pas pour toi, mais pour le symbole que tu représentes. Et pour moi, mes hommes et Dieu. Il l'embrasse. Et là, elle quitte. Sorti de la ville et se bat, cherche Didier, il se bat comme un lion, corps à corps avec un poignard. Au bout d'un moment, il voit Didier qui se bat avec un de ses hommes. Il dit à l'homme, laisse-le-moi. L'homme se retire. Didier est déconnancé. Genevois fait le geste de foncer sur lui. Didier recule. Puis, d'un bond, il fait face. Ils sont tous les deux. Et poignard à la main. Il tourne en rond. S'observe. Didier, en tournant, a le reflet du soleil dans les yeux qui viennent de la vitre d'une voiture. Ça l'aveugle. L'autre enfonce, en profite, fonce sur lui. Le fait tomber à terre. Les deux hommes roulent à terre dans le sable. Genevois réussit à plaquer Didier au sol. Sur le dos. Il est sur lui. Les jambes de Didier sont prises dans l'étau des jambes de l'homme. les plaques contre lui. Jeune Bois lève son poignard qui brise. D'un geste, Didier prend du sable et le jette au visage. Jeune Bois instantanément recule, ce qui libère Didier qui se met à courir. Il court. Jeune Bois, furieux, il court après. Il se tourne en courant. Ils sont tous les deux en furie, en sueur, le cœur qui bat très fort. Jeune Bois se rapproche de plus en plus de Didier. Et tout d'un coup, Didier sent un coup dans le dos, un coup de poing. Ça ralentit, ça marche, il marche en zigzag. Il dit, j'ai reçu un coup de poing dans le dos. Puis, tout à coup, il voit que ça tremble, s'arrête de marcher et tombe en avant sur le dos. Le dos est trop lourd, il ne peut pas se relever. Voix trouble, blanc, rouge. Noir. Puis, le néant, il est mort. Accourt à lui, se penche et crie, il est mort, le chien de Occidental est mort. Tous ceux qui ont assisté à la chose n'osent pas bouger. Puis je ne vois dit que personne ne touche au cadavre. Il doit être mangé par les chacals. Les soldats comprennent. Et c'est un cri d'allégresse. C'est les Noirs et les musulmans. Un cri de terreur chez les autres. Les troupes françaises se retirent, quittent le combat, apeurées, parce que leur héros est mort. Les chefs l'apprennent. Ils sont effondrés. Les Américains l'apprennent aussi et décident c'est de se retirer. L'Amérique dit que la France est perdue. C'est la panique et l'effondrement. Chez les uns et les autres, la joie. Benoît, je veux dire, met des hommes près du corps pour que personne ne le prenne. Et il entre chez lui par des cris de joie. c'est la fête. Comme si la guerre était finie. Jeanne est heureuse. Elle a oublié que Didier était son petit chéri et qu'elle déteste les Noirs et son mari. La France l'apprend, et l'Amérique aussi. En France, c'est la consternation. À l'Élysée, le président de la République, Marc Girardon, décide de parler à la nation, à la télévision. Sur M6, c'est mieux pour les jeunes. Ça fait plus jeune. Mes chers concitoyens, alors que nous subissons une guerre terrible et que la France est attaquée dans son sein par des attentats meurtriers, des soldats, des héros se battent pour défendre notre liberté et notre souveraineté. Parmi ces soldats, il y avait un qui m'était particulièrement cher, parce que c'était le plus grand héros. Héros, oui, digne, des héros antiques, qu'Homère aurait chanté dans l'Iliade. Ce héros, Didier Dupin, n'est plus. Il est mort, au combat, d'une façon héroïque. Nous devons lui rendre hommage. La France a perdu un de ses plus grands sujets. Et ce Français est mort pour nous défendre. Pensez à lui. La Tremblant a appris la nouvelle. Elle est consternée. Judith aussi. Cliff l'a appris par Judith au téléphone. Qu'il avait apprise avant tout le monde. Cliff reçoit un choc et lui dit: courage, il est mort pour nous. Nous deux. Et on doit en être digne. Il dit: je me sens coupable de cette mort. J'aurais pas dû le laisser aller là-bas. Elle lui dit: il fallait qu'il y retourne pour les troupes. Oui, mais il est mort. La mère de Didier l'apprend. Elle est effondrée. Elle est apprise par un gendarme qui est venu lui apporter la nouvelle. Par télégramme. Elle est effondrée. Ne veut voir personne. Cliff, dès qu'il a appris, lui téléphone. Il dit: je l'aimais beaucoup. Elle lui dit, merci, merci. Je ne sais que dire, je comprends. La mère apprend par une lettre du général des armées que le corps de son fils ne lui serait pas rendu et le pourquoi. Elle est effondrée. Voit Mélusine qui la reçoit dans son salon. Elle lui dit en pleurs. Mon fils, le corps de mon fils, je vous en supplie, aidez-moi. Je veux le corps de mon enfant. Ayez pitié d'une mère qui souffre. Mélusine lui dit, on ne veut m'en occuper. On ne peut pas refuser le corps de son fils à une mère. Ne restez pas chez vous seul. Restez avec moi. Oui, je veux bien. Merci. Et elle s'embrasse. Mélusine réfléchit et décide. C'est de téléphoner à l'homme en noir qu'elle connaît. C'est lui qui lui a dit pour son fils. À son bureau. Et prend son téléphone. J'aimerais lui parler. Qui êtes-vous? Je suis Mélusine, recours-toi. Je vais voir. L'homme regarde sur l'ordinateur du téléphone, qui sait bien elle. Il lui demande, mettez votre pouce. Et c'est ce qu'elle fait. Elle met son pouce sur l'écran du téléphone. Il voit que c'est bien elle. Bien, je vais voir. Elle attend. Allô? Allô? C'est lui. Elle lui dit, pardonnez-moi de vous déranger, mais j'ai un service à vous demander. J'ai chez moi Madame Dupin qui pleure la mort de son fils. Elle aimerait, c'est que l'on lui donne son corps. Pouvez-vous aider cette pauvre femme qu'on ramène le corps de son fils? Demandant, lui dit, malheureusement, c'est impossible. Nous ne pouvons pas envoyer une armée récupérer un corps. C'est trop dangereux. Mélusine lui dit, mais c'est le corps d'un héros. Non, je ne peux pas. Bien, monsieur. Elle a raccroché. Cliff est chez lui. Se dit qu'il faut qu'il fasse quelque chose. Didier est son ami. Il se dit qu'il faut qu'il aille chercher le corps de son ami pour le ramener en France. C'est la moindre des choses qu'il peut faire et décide. C'est de parler de ce projet à M. Franblanc. Il demande un entretien à M. Franblanc qu'il reçoit dans son bureau. Cliff lui dit, j'aimerais aller chercher le corps de mon ami en Afrique. Maurice Franblanc réfléchit et lui dit, vous avez mon accord. C'est une bonne chose. La France ne peut se permettre cette humiliation. Et la Franblanc non plus. Monsieur Dupin est mort pour nous. Nous nous devons, c'est d'aller chercher son corps et de l'honorer. Allez-y, jeune homme.
Merci, monsieur.
M. Franblanc lui dit encore, avant de quitter la France, nous convoquerons la presse. Et Cliff décide de partir le plus vite possible. Il dit à Franblanc qu'il part dans une semaine. Ne dit rien à personne, parce qu'il se dit que cette histoire ne regarde que lui et Didier, son ami. Le préparatif dure une semaine.
Et une semaine plus tard, il va à l'aéroport. À l'aéroport Charles de Gaulle. Malheureusement, pour prendre un avion militaire pour aller en Afrique sur les lieux du combat. À l'aéroport, avant qu'il n'embarque, malheureusement, les médias ont été prévenus, télé, radio, presse. Puis reçoit la presse dans le salon de l'aéroport. Reçoit la presse dans le salon de l'aéroport. Il leur dit, je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Je dois partir en Afrique pour aller récupérer le corps de mon ami Didier Lupin, pour que les honneurs lui soient rendus. Un journaliste lève la main. Il fait, oui. Bonjour monsieur, je m'appelle Pierre Marx. Je fais une émission sur Radio C à l'écoute du monde. J'aimerais savoir comment vous allez prendre le corps de Monsieur Dupin. Il lui dit, je ne sais pas, mais s'il faut se battre, je me battrai. Pierre Marx lui demande, jamais battu jusqu'à présent. Il lui dit, ici, et même en Afrique. Pourquoi êtes-vous resté ici? Pourquoi n'êtes-vous pas parti plus tôt? Il lui dit, parce que j'avais autre chose à faire. Pierre Marx lui demande, vous devez vous sentir un peu coupable de la mort de votre ami. Car lui est mort en combattant, tandis que vous, vous êtes ici. Puis il lui dit, j'ai participé à la guerre. Mon ami, et j'ai perdu ma fiancée. Je vous remercie. Voilà, la conférence de presse est finie. Il faut que j'y aille. Merci. Il se lève, les journalistes courent et crient. Des photos. Cliff va prendre son avion. Ne savait rien et furieuse. Elle va voir le Mans Noir. Vous qui l'avez fait partir là-bas?
Non, bien au contraire, je suis contre son départ. Parce que si c'est lui le prétendant, il va risquer sa vie pour un corps mort.
Je dis, tu dis.
Je vais voir Franblanc.
Elle va voir Maurice Franblanc à son bureau.
Lui demande, c'est vous? Vous êtes au courant du départ de Cliff?
Oui, et il m'en a parlé. J'ai trouvé la chose bonne pour nous et la France.
Elle dit furieuse,
et s'il lui arrivait quelque chose?
Un mort de plus ou de moins, c'est la vie.
Vous avez fait une grave faute, monsieur.
Je suis le président.
Cousine apprend que son fils est parti pour l'Afrique. Se dit que c'est l'homme noir qui lui a dit d'y aller. Parce que... elle lui a poussé, lui a demandé le retour de Didier. Et se dit, mon fils, qu'est-ce que la mort ? Madame Dupin est toujours chez elle. Elle aussi, elle apprend le départ de qui ? Elle pense que c'est Mélusine qui a demandé à son fils de partir chercher le corps de son fils. Elle dit, il en serait toujours reconnaissante. Reconnaissance, madame, recours-toi. Mélusine aux ses épaules et lui dit furieuse, vous êtes seule, moi, demandez à mon fils de risquer sa vie pour un cadavre. Le corps de Didier est toujours à la même place, au pied de la ville, gardé par des soldats que pour que personne ne le touche. Le corps se décompose. Il pourrit. Des insectes, des vers de terre. Il y a des charognards, oiseaux et autres qui tournent autour de lui. D'autres corps, des batailles, sont ramassés de suite. Ils n'ont pas le temps de se servir, les charognards. Mais là, ils voient un corps qui reste sur place. Ça les attire. Les deux armées continuent à se battre. Et les Occidentaux, avec moins d'entrain que les autres, qui ont plus de fougue. Ils ont tué leurs plus grands ennemis et sont plus forts. Cliff arrive sur le champ de bataille en jeep. Ils savent que c'est un jeune homme courageux. La vue de Cliff redonne courage aux soldats et à leurs chefs qui ont toujours peur des Africains. Cliff, qui n'est pas un soldat, dit qu'il vient seulement récupérer le corps de son ami et pour cela, il doit se battre. Le lendemain, on lui donne des armes et un costume. Il va se battre avec les autres autour de la ville. Il se bat comme un lion. Il a repris ses gestes de guerre. Se protège et attaque, fonce sur les hommes, le poignard à la main, et les égorge, se bat dans la poussière, la chaleur, la bataille est dure, parce que les ennemis savent qui est Cliff et veulent tous se battre avec lui. Cliff, en se battant, se rapproche du corps de Didier. Il le voit de loin, mais ne peut se rapprocher parce qu'il est bien gardé. Après plusieurs jours de bagarre, il se rapproche de plus en plus du corps. La bataille est dure. Il s'en gicle. Il glisse et siffle.
réussit, grâce à sa souplesse, à se défendre. Il doit faire très attention.
Je ne vois qui sait que Cliff est là. Et ce qu'il fait parce qu'il veut reprendre le corps de Didier, dit à Jeanne. Ce que j'ai fait à son ami, je vais le faire à lui. Je ne veux pas qu'il devienne un dieu, ce petit blanc-bec. Je le veux, je l'aurai comme l'autre.
Elle lui dit, je serai fière de voir un mari, un homme comme toi. Oui, vas-y.
Elle est ivre. Ivre qu'un homme se batte pour elle, parce qu'elle pense qu'il se bat pour elle. Mais Genois ne pense plus à elle. Il va se battre pour lui, pour son orgueil. Pas pour Jeanne. Jeanne n'est qu'une femme, il n'y a rien d'autre.
Cliff, pour se battre le plus près de la ville, prend une jeep qu'il conduit lui-même. Il fonce avec sa jeep jusque vers la ville. Les guerriers qu'il rencontre sur son passage foncent comme un fou. Et ils voient qu'il a sur sa jeep une mitraillette. Arrivé vers la ville, la porte de la ville s'ouvre et sort une jeep aussi conduite par Genevois. Genevois voit Cliff qui est sur une jeep et qui fait la même chose que lui. Genevois fonce sur lui. Cliff a eu tout juste le temps de tirer. Et tourne à droite. Genevois lui court après. Cliff se dit, puisqu'il veut. Puisqu'il veut la bagarre, il aura celui-là. Et court après lui. Il fonce dans le sable. Genevois le voit. Tout d'un coup, Cliff a freiné. Il tourne en fonçant sur Genevois. Les deux voitures se font face. Ils ont tous les deux la fureur de cogner sur l'autre. Mais Cliff a plus de sang-froid. Alors il tourne. Il se met de côté, puis fonce. Et roule. Ils sont roue contre roue. Ils se cognent côte à côte, voiture contre voiture. Elles se cognent, se déséquilibrent l'autre. Tout d'un coup, Cliff voit que qui conduit, c'est Genevois, celui qui a tué son ami. Alors, ivre de haine, de terreur, s'empare de lui. Et cette haine lui donne une force surhumaine. Il lâche son volant, alors que sa voiture roule à vive allure, et d'un bond, il saute sur la voiture de Genevois. Il tombe sur le siège arrière. Sa voiture part en zigzag et s'est arrêtée. Cliff est dans la voiture de Genevois qui file à vive allure. Il est dans le siège arrière où il est tombé. Il prend par derrière Genevois. Conduit. Genevois sent qu'on le prend par derrière, l'enchevelant, pour sortir de l'emprise de l'agresseur. Sa voiture file, roule en zigzag. Les deux hommes sont l'un contre l'autre. Cliff ne veut pas le lâcher, il a un poignard à la main. Genevois, d'un geste de coude, fait lâcher Cliff. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Pierre, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.